France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, l'amour selon Colette. Chapitre 1, ne pas se laisser faire. Les lois de l'amour sont immuables, et Colette les connaissait toutes. Séduire, garder, rejeter, partir, l'autrice de Chérie a su jouer avec ses victimes à la manière des chats qu'elle aimait tant, tout en se trouvant aussi à certains moments dans la position d'être la souris. Mais connaître les lois de l'amour, les avoir disséquées et racontées dans ses romans ne signifie pas qu'elle les maîtrisait dans sa vie à elle. On n'est pas tout à fait certain qu'elle ait vraiment « réussi » entre guillemets ses relations amoureuses, si tant est qu'on puisse définir ce que serait une réussite dans ce domaine. N'est-il pas alors dangereux de chercher des conseils auprès de la grande Colette ? Eh bien, nous allons le faire un peu quand même au cours de cette série. Mais surtout, nous allons raconter l'histoire de ses différentes relations et de son rapport à l'amour avec des hommes et des femmes, des gens bien plus âgés qu'elle et des gens bien plus jeunes, pour en tirer quelques leçons et aussi quelques exemples à ne pas suivre.
L'amour selon Colette est une série de salles des archives proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire. Attachée de production Lily Corner.
Le premier amour de Colette s'appelle Henri Gauthier-Villard. Il était une sorte de débauché, mais il était aussi une star du journalisme culturel. Chaque dimanche, après le concert de l'après-midi et sous le pseudonyme de Louvreuse, il rédigeait une chronique souvent drôle et sans concession sur ce qu'il venait de voir. Il défendait la musique moderne et faisait rire ses lecteurs avec des calembours du type « Lance l'eau du lac ». Déjà, le titre est pompier.
Soirée perdue. La mouche décroche. Entre deux airs, la colle aux quintes. Note sans portée. Garçon, l'audition. La ronde des blanches. Do dièse. Hanche et embouchure.
Quand il rencontre officiellement la jeune Sidonie Gabrielle Colette, 18 ans, Henri Gauthier-Villard, dit Willy, est donc une authentique vedette, âgée de 32 ans, et déjà père d'un petit garçon. C'est justement cet enfant, que d'ailleurs il cache à sa famille, qu'il vient mettre en nourrice chez les Colette. Ils se sont installés à Châtillon-Coligny, dans le Loiret, où la famille, ruinée, déclassée, s'est réfugiée après avoir perdu leur maison de Saint-Sauveur. En réalité, il ne s'agissait pas tout à fait de la première entrevue. La jeune fille et le chroniqueur s'étaient déjà rencontrés. Ça s'était passé à la librairie du père de Willy, qui était une connaissance du père de Colette, et la jeune fille avait fait forte impression à cet homme, pas encore vieux, mais déjà plus tout à fait jeune non plus. L'hypothèse d'un mariage était même discutée entre eux depuis longtemps, puisque Colette prétendra plus tard avoir été fiancée à Willy dès l'âge de 16 ans. Mais un détail clochait au sujet de cette union, la différence de statut social entre le promis et la promise. Frédéric Magé, vous êtes directeur de la maison de Colette, celle-là même dont je parlais à l'instant au sujet de ses premières entrevues avec Willy. Colette, qui est une jeune fille sans dot, qui vit à la campagne et que voilà promise donc à un héritier d'une grande maison scientifique d'édition tout de même, lui-même une personnalité connue du tout Paris. Est-ce que vous diriez que c'est un mariage déséquilibré selon les critères de cette fin de 19e siècle ?
Étonnamment, je dirais que ce n'est déjà pas un mariage d'amour. Et ce, en tout cas du côté de Willy. Henri Gauthier-Villard est effectivement plus âgé que Gabrielle Colette. Et lorsqu'il l'épouse, donc le 15 mai 1893, il fait part à son frère de son peu d'affection pour la jeune femme. Il avait le sentiment, en l'épousant, de faire un devoir, de rendre un devoir qu'il devait à la famille de Colette, qui avait effectivement veillé sur son fils Jacques Gauthier-Villard. Il l'avait placé en pension dans cette campagne, les Colette avaient veillé sur lui et il se sentait un peu redevable à l'égard de cette famille qui avait auprès d'elle cette jeune fille, c'était la seule qui restait et qui n'avait effectivement pas de dot, mais qui était belle, intelligente, extrêmement cultivée. Et l'idée va évidemment émerger dans l'idée peut-être pas de Gabrielle, mais de Sido, c'est certain, puisqu'elle le confiera à son autre fille Juliette. C'est Willy qui doit faire rentrer la petite dans le grand monde.
Donc vous n'avez pas le sentiment tout de même que dans ce début de relation, peut-être du côté de Colette à ce moment-là, il y a une forme d'amour sincère?
Je crois que du côté de Colette, il y a une curiosité, une fascination. Colette a lu Willy avant même de l'épouser. Elle admire cette personnalité très drôle, très vive, très, très cultivée, et qui a sa place dans tous les théâtres, dans tous les salons parisiens. Quelle est la part de l'amour et de l'ambition chez cette jeune femme qui, ma foi, est tout de même assez innocente sur les questions de l'amour? C'est difficile de le départager. Si on se fie, en tout cas, aux premières déceptions amoureuses de Colette après le mariage et à la dépression dans laquelle elle tombe, on peut penser que elle a été profondément éprise de Willy. Cet amour, d'ailleurs, durera assez longtemps, beaucoup plus qu'on ne le pense, mais c'est un amour sans doute un peu particulier qui ne ressemble pas en tout cas au modèle du couple hétérosexuel bourgeois tel qu'il pouvait exister à l'époque.
Que pensent donc les familles respectives de ce qui pourrait paraître à ce moment-là comme une mésalliance? Rappelons encore une fois que Willy aurait pu prétendre à un autre type de parti, sans doute mieux doté.
Oui, mais n'oubliez pas que Willy a accepté de reconnaître un enfant, Jacques Gauthier-Villars, qu'il a eu d'une femme qui était encore mariée. Dans son milieu, c'est-à-dire un milieu très bourgeois, il n'a aucune chance de trouver un parti. Et donc, le fait d'épouser cette jeune fille sans dot peut nous apparaître comme un pis-aller par rapport effectivement à la famille Gauthier-Villars qui a sa maison d'édition, qui a des grands Augustins, qui est l'éditeur de l'école polytechnique, des grands scientifiques de l'époque. Mais en réalité, Willy occupe déjà à la fois socialement, je dirais, dans sa famille une position marginale et je dirais une position aussi marginale par rapport aux activités de cette famille puisque lui ne s'intéresse pas beaucoup aux activités de la maison d'édition et d'impression, puisque lui préfère à la compagnie des savants celle des poètes du Chat Noir et va se faire un nom à la fois dans la critique musicale mais aussi dans le roman léger, toutes choses qui ne paraissent pas compatibles avec un mariage bien bourgeois tel qu'on pouvait le concevoir dans le milieu des Gauthier-Villars.
Alors que la liaison entre Colette et Willy est entamée, la presse s'amuse déjà de sa nouvelle conquête. Le journal Gil Blas, à la manière d'un tabloïd d'aujourd'hui, écrit l'entrefilet suivant. On jase beaucoup du flirt intense que l'un de nos plus spirituels clubmen parisiens poursuit avec une exquise blonde, célèbre dans toute la contrée pour sa merveilleuse chevelure. On ne dit pas que le mot mariage ait été prononcé. Aussi, nous engageons fort la jolie propriétaire de deux invraisemblables nattes dorées à n'accorder ses baisers, selon les conseils de Méphistophélès, qu'une fois la bague au doigt. On se rend compte, Frédéric Maget, que c'est un peu dans un panier de crabes aussi que s'apprête à entrer Colette, qui n'a alors que 20 ans.
Je crois qu'elle est fascinée, elle, quand elle arrive à Paris. Il faut vous imaginer cette jeune femme déclassée. Donc, il ne lui reste pas finalement beaucoup de pistes. Elle le dira elle-même, rentrer dans les ordres ou devenir institutrice. Donc, le mariage est pour elle une chance d'échapper à cet enfer provincial qui l'attend. Et en épousant Willy, elle est admise dans toutes les salles de théâtre, de concert. Elle va d'ailleurs découvrir véritablement la musique symphonique, la musique orchestrale. Elle avait déjà une éducation musicale, mais qui se résumait au piano, au chant.
Ça, c'est Willy qui lui
ouvre ces portes-là. Les portes aussi, évidemment, des grands salons musicaux et littéraires de l'époque. Elle va d'ailleurs y rencontrer beaucoup de gens qui vont l'accompagner tout au long de sa vie. Elle rencontre très tôt, dès 1895, Marcel Proust, par exemple, dans le salon de Madame de Caillavet. Donc, elle découvre un monde tout à fait inconnu. Néanmoins, cela est contrasté par le fait que, en épousant Willy, elle épouse un homme qui est déjà fait, qui est un homme ambitieux, bien sûr, qui a ses propres activités dans tous les domaines, bien sûr journalistiques, éditoriaux, mais qui a aussi ses maîtresses qui sont déjà en place et il n'entend pas y renoncer. Et donc elle va devoir finalement revenir sur une image de l'amour qu'elle avait à travers ses parents, Sido et le capitaine, et peut-être à travers la littérature.
Ce mariage ne se présentait donc pas sous les meilleurs auspices, d'autant moins que la relation de Colette avec son mari, de 14 ans son aîné, ne semblait pas très équilibrée. on trouve dans la salle des archives une mise en scène de leur histoire qui date de 1959.
En fait, ce qui marque Willy, c'est le vice paternel. Il a toujours traité Colette comme une fille qu'il aurait eue à 12 ans.
Il agira de même avec ses compagnes successives.
Le jeune ménage s'est installé rue Jacob, dans la garçonnière du maître. La jeune épousée, sous le poids d'un chignon instable, semble avoir oublié son sourire. Elle respire mal en cette atmosphère vilipendée. Elle est comme un poisson tiré hors de son bocal. Elle crâne et retient ses larmes.
Sido, quand elle rend visite à celle qui ne cesse de lui écrire au moins deux fois la semaine et qui s'efforce de lui faire croire à son bonheur, s'entend dire
« Oh, maman, t'es bien toujours de ton village !»
Sido réplique
« Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village ? Toi, te voilà comme le pouce sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Et quand je dis un Parisien, les vrais Parisiens d'origine ont moins de caractère dans la physionomie. »
Que vous pensez de cette archive, Frédéric Magé ?
C'est une archive invraisemblable. Elle mélange des citations tirées de textes de Colette, donc la version de Colette sur cette histoire. Et puis, elle est aussi assez inexacte, puisqu'en réalité, quand Colette arrive à Paris, effectivement, elle s'installe dans la garçonnière de Willy, qui ne se trouve pas rue Jacob, mais qui se trouve quai des Grands Augustins, au dernier étage de la maison d'édition. Et ils vont le rester là 15 jours. Ils vont s'installer à l'hôtel Foyot qui est à côté rue Tournon, le temps que soit aménagé un nouvel appartement rue Jacob. Là encore, la version que Colette donnera de son installation rue Jacob, notamment dans Mes apprentissages en 1936, doit être prise avec une certaine distance, parce qu'évidemment, elle veut faire véritablement de cet endroit le symbole de son enfermement, de sa tristesse. Et c'est vrai qu'en quittant la campagne, la Bourgogne et le Loiret, elle quitte ses bois, qu'elle fera revivre dans Claudine à l'école, son contact avec la nature pour... il faut imaginer ce que pouvait être Paris et la rue Jacob à la fin du 19e siècle. Très sombre, bruyante, malodorante.
Et donc ça colore aussi les souvenirs de Colette qu'elle raconte dans Mes apprentissages sur finalement ce mariage. Est-ce que ça sous-entend que finalement, il n'a peut-être pas été si malheureux que ça, ce mariage, que ce qu'elle en a dit ensuite ?
Ah, je pense. Je pense que Colette est rentrée dans un monde qui était rempli de vie, de rencontres, de surprises et d'émerveillements. Il faut vous imaginer un appartement, c'est le cas de la rue Jacob, mais ça sera également le cas rue de Courcelles, un appartement qui est rempli de journalistes, d'écrivains, de musiciens qui viennent voir le patron pour rendre leur copie. Parmi eux, il y a beaucoup de jeunes écrivains qui ont l'âge de la jeune Colette à ce moment-là. Donc il y a aussi cette part-là, et ce n'est pas simplement, je dirais, la dépression qui fut réelle. C'est-à-dire que Colette épouse Willy donc le 15 mai 93, elle arrive tout de suite à Paris et elle ne tarde pas à découvrir, plus exactement, elle raconte qu'elle reçoit une lettre qui lui annonce l'adresse où elle pourra trouver Willy en bonne compagnie. Et cette découverte des infidélités de Willy va la plonger dans une grave dépression qui va l'amener, en 1894, à faire un long séjour à Belle-Île. Et je pense qu'après 1894, elle va sortir de cette dépression qui aurait pu la conduire au suicide, c'est en tout cas ce qu'elle sous-entend dans Mes apprentissages, par l'écriture, puisque cela correspond au moment où elle commence à écrire Claudine à l'école.
Willy est un écrivain graphomane. Enfin, disons qu'il est un graphomane qui n'écrit pas beaucoup, mais qui publie énormément. Son secret, travailler avec les autres, ou bien faire travailler les autres, tout dépend comment on présente les choses. Dans le cas de Colette, c'est plutôt elle qui va travailler pour lui, évidemment. Car Willy se rend vite compte de la vivacité intellectuelle de sa femme et de sa facilité à raconter des histoires. Il lui suggère de jeter sur le papier ses souvenirs d'une jeunesse encore toute proche, l'école, son institutrice, et le résultat dépasse ses attentes. Il découvre un texte vif, amusant, original et d'une légère sensualité dont il comprend immédiatement le potentiel sur un plan littéraire, mais surtout sur le plan commercial et de la notoriété. Ainsi naît Claudine à l'école, le premier roman de Colette, signé de la main de Willy. C'est le début d'une véritable fabrique littéraire dont témoigne l'écrivain et journaliste Michel-Georges Michel dans un document de septembre 1978, retrouvé sur un rayonnage obscur de notre salle des archives.
Ils occupaient chacun une table. Les deux tables étaient disposées en équerre. Et Willy interrogeait Colette, mais Colette interrogeait surtout Willy. Il y avait une chose très amusante, c'est que, comme dans certains ménages snobs, les époux se disent « vous », là, c'était un peu le contraire. Colette disait « tu » à Willy, et Willy disait « vous » à Colette. Et je me rappelle fort bien Colette interrogeant Willy « de quelle couleur est la mer à Biarritz à 5 heures du matin ?»« Si je m'étais glauque !» Alors Willy répondait « glauque, non, ça fait un peu trop Jean-Lorrain, mettez Versailles !»
Mais c'était presque un rapport de fille à père,
oui,
cette
oui,
façon d'employer le « tu » et le « vous ».
Elle écrivait ses mémoires un peu sur des cahiers d'écolier. Elle a continué comme ça, d'ailleurs toute sa vie. Et Willy les corrigeait, et Willy y ajoutait des choses. Il lui disait « vous êtes une romantique, et toi tu es un tortillier ». Enfin, ils se disputaient comme ça.
Frédéric Magé, comment fonctionnait au quotidien ce couple Colette-Willy ?
Je crois qu'il faut l'envisager, pas tellement comme on l'a dit, c'est-à-dire, et comme Colette l'a un peu dit, c'est-à-dire comme une épouse docile qui répond aux consignes d'un mari autoritaire et peut-être même violent, puisque c'est ce qu'elle suggère dans Mes apprentissages. Il faut le considérer comme un ménage d'artiste. Et c'est ce que dit très bien cette archive, c'est-à-dire de deux créateurs qui travaillent côte à côte et qui, ensemble, écrivent des œuvres ou écrivent parallèlement des œuvres différentes.
J'ai appelé cet épisode « Ne pas se laisser faire ». Est-ce que vous pensez que c'est le titre qui convient ? Parce que on a tendance à considérer que dans cet amour-là, Colette a été une victime, mais que malgré tout, elle ne s'est pas laissée faire. Est-ce que c'est conforme, selon vous, à l'histoire ?
Ce qui est certain, c'est que, je pense, Colette a très vite, très tôt, conscience de son talent. Beaucoup plus qu'elle ne le dira plus tard. Elle dira plus tard qu'elle est devenue écrivaine par hasard, parce que Willy lui a demandé d'écrire. Je crois que ce n'est pas exact. Colette commence à travailler pour les ateliers dès les premiers mois du mariage. Elle est mise au travail par Willy. Alors peut-être des tâches qui sont des tâches de secrétariat, de copiste. Hein. Mais très vite, c'est devant le talent de la jeune femme que Willy va lui confier des tâches de plus en plus importantes. Et Colette va voir là l'opportunité de faire quelque chose. Et Willy va le lui permettre, même si c'est sous le masque, évidemment, de la marque Willy dans un premier temps.
Le succès triomphal des Claudine et des autres romans sortis de la fabrique de Willy va fasciner durant de longues années. D'autant plus que ces livres ont été écrits au moins à quatre mains, de cette façon très intrigante et particulièrement inhabituelle. En février 1950, soit un demi-siècle après leur rédaction, le journaliste André Parrino interrogeait encore Colette sur la façon dont ils avaient été rédigés, toujours hypnotisé par ces romans qui avaient représenté, de par leur contenu d'une troublante liberté, de véritables phénomènes de société.
En 1904, vous écrivez « Mine », en 1905 « Les égarements de Mine ». Vous les groupez en 1909 sous le titre « L'ingénue libertine ». Quelle était, au départ, l'idée romanesque de Mine ?
Elle est bien simple, surtout bien brève. J'avais eu l'idée d'une petite nouvelle qui n'avait pas en tout vraiment une cinquantaine de pages. Voilà tout. Voilà notre point de départ pour Mine.
Et quelle a été la part de M. Willy dans la transformation de Mine ?
Eh bien, dans la transformation, il m'a dit vivement, vivement, il m'en faut au moins 150 pages.
Et vous vous êtes mis au travail en brodant sur la nouvelle de base.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fisse ?
Vous pouviez facilement refuser.
Je pouvais ?
Facilement refuser.
On voit bien que vous n'avez pas épousé M. Willy.
Au passage, je signale que ces entretiens de Colette avec André Parrino sont à retrouver sur le site internet de France Culture ou sur l'application Radio France.
Je crois qu'elle était très, elle le dit d'ailleurs elle-même, elle était très à l'aise sous le masque finalement. Ça lui donnait une liberté. Peut-être qu'elle osait faire des choses sous la marque Willy qu'elle n'aurait pas osé faire toute seule. Mais à partir de 1902, là on voit qu'il y a une évolution. Colette demande à ce qu'elle apparaisse. Et là, Willy est un peu plus réticent, parce qu'il sait très bien que c'est lui qui fait vendre et c'est sous son nom. Mais dès 1902-1903, Colette apparaît dans la presse de l'époque comme la collaboratrice de Willy. Et d'ailleurs, on a un article quand elle est au Montmaucon à Besançon, elle reçoit un journaliste et elle dit qu'elle est l'autrice des Claudine. Et c'est tout à fait évident et ce n'est plus caché à ce moment-là. Et donc à partir de 1903-1904 et donc 1905, au moment de Mine et les égarements de Mine, il ne fait plus aucun doute que Colette est la co-autrice et la collaboratrice de Willy. Elle est d'ailleurs présentée dans la presse de l'époque comme femme de lettres dès 1904.
Est-ce que Willy accepte de reconnaître à un moment donné le travail et le très bon travail de Colette ?
Je crois qu'il ne faut pas mésestimer la grande force de Colette. Colette n'est pas une victime. Elle a cherché à se faire une place. Elle a commencé en 1904. Elle a publié « Dialogue de bête » sous le nom Colette Willy, dans un premier temps. Elle sort, elle apparaît comme femme de lettres, comme autrice, comme collaboratrice. Donc on sent qu'à ce moment-là de la relation entre Colette et Willy, Colette veut exister, véritablement sous son nom. Et comme par hasard, c'est le moment où Willy se sépare de Colette.
Dans cette archive de 1950, dont on a donc déjà écouté un extrait, le journaliste André Parino revient sur un fait qui lui semble invraisemblable, que Colette n'ait pas quitté Willy au moment où elle se trouvait exploitée par lui.
Je vais vous poser une question indiscrète, mais je voudrais savoir pour quelle raison une jeune femme douée comme vous l'étiez à l'époque a accepté si longtemps la tutelle de Monsieur Willy.
Ouais, évidemment, ça ne peut pas vous paraître naturel, mais moi... Ça me paraissait simplement inévitable parce que si j'avais voulu suivre mon penchant, ou presque la nécessité où j'étais, je ne l'ai pas suivi parce que il aurait fallu pour ça que je quittasse M. Willy et que je retourne à ma famille. Je n'avais pas d'autre refuge. Or, je ne voulais absolument pas, mais absolument pas, que ma mère découvrit que je n'étais pas heureuse. Et puis, il faut songer tout de même, il fallait songer tout de même à la nécessité matérielle de certaines choses. Or, comme on dit, je n'avais pas le sou, et ma famille non plus. Alors, il fallait leur retourner là-bas en dépouillée, en personne qui a raté sa vie par sa seule faute d'ailleurs. Alors je suis restée où la chèvre est attachée. Il faut qu'elle broute.
Est-ce qu'elle dit vrai alors, Frédéric Magéis ?
Ah là, absolument. Que voulez-vous qu'elle fît ? Effectivement, elle n'était personne. Celui qui avait obtenu toute la gloire et l'argent, c'est Willy. N'oubliez pas le statut des femmes à cette époque. Colette n'a pas de compte bancaire. Donc tout cet argent, elle en profite, elle en bénéficie. Dans de beaux appartements, des chevaux, une magnifique maison secondaire au Montboucon. Elle profite de cette vie très, très confortable. Mais elle n'a pas véritablement d'existence pour le monde de l'édition qui voudrait bien signer Willy, mais certainement pas Colette Willy.
Autrement dit, dès qu'elle commence à avoir un début de notoriété personnelle, elle en profite pour s'en aller ?
Alors moi, je pense qu'elle serait restée. C'est Willy qui lui a ouvert la porte en lui demandant d'aller voir ailleurs. Il avait rencontré une jeune femme, Meg Villard. Il pensait, et c'est là la grande naïveté de Willy, que ce qu'il avait fait avec Colette, il pourrait très bien le faire avec une autre. D'ailleurs, il va faire écrire cette jeune femme, qui aura d'ailleurs une carrière par la suite, de traductrice plutôt. Et Colette est priée d'aller voir ailleurs. Et elle se retrouve dans une situation extrêmement compliquée pour une femme à l'époque. Et c'est là que vont intervenir de fait, d'abord en 1905, la rencontre de Missy, qui va devenir sa compagne, et puis à partir de 1905-1906, le début dans une carrière qui apparemment n'est pas littéraire, celle du music hall.
Colette a donc donné son point de vue dans son livre « Mes apprentissages ». Est-ce que Willy n'a pas été tenté, lui aussi, d'écrire le livre qui raconterait leur mariage comme lui voudrait qu'on s'en souvienne ?
Je pense que Willy valait mieux que ce que Colette en a dit dans Mes apprentissages. Et la preuve en est que pendant longtemps, Willy a annoncé qu'il allait publier ses mémoires et qu'il allait dire sa vérité. Et il y a un volume qui est paru où il ne dit rien du tout. En fait, il n'a jamais vraiment souhaité répondre à Colette. Il lui a laissé la plus belle place, en quelque sorte.
Et pour quelle raison, selon vous ?
Je pense que c'était dans son éducation, je pense que c'était dans sa nature profonde. La gloire de Colette va montante, il n'a aucune raison de l'arrêter. Je crois que profondément, Willy savait qu'il avait encouragé les débuts d'une immense écrivaine.
La personnalité de Willy est aussi complexe que passionnante. En 1957, 3 ans après la mort de Colette et 26 après sa mort à lui, une émission de psychologie entreprend de faire sa psychanalyse sur les ondes. C'est le docteur Joseph Logre qui se penche avidement sur le cas Gauthier Villars.
Nous avons vu s'ébaucher sous nos yeux, puis se constituer une phase dépressive bien caractérisée, disons plus précisément une mélancolie de la quarantaine. Tout y est, la fatigue, le découragement, la langueur, la diminution de l'activité, la dépréciation de soi-même avec sentiment de déchéance et le dégoût de vivre, sans oublier l'insomnie. Lorsqu'on étudie l'état moral de Willy dans son ensemble, on s'aperçoit que, au cours de sa vie ordinaire, alors même qu'il se croyait et qu'on le croyait normal, il présentait un certain degré d'excitation psychique. Il était suractif, parlait beaucoup, écrivait beaucoup, travaillait beaucoup, il faisait tout beaucoup. Georges Lecomte, cité par notre ami Fleuriot de Langle, nous relate en quelques mots l'emploi du temps habituel de Willy. Levé peu après l'aube, il parcourt les revues et les journaux, envoie des télégrammes, écrit 20 lettres, rédige une 10aine de chroniques, déjeune en ville et dîne en ville ou va au théâtre avant de se coucher fort tard. Au gré du psychiatre, on ne pourrait décrire avec plus de force probante un état de petite excitation psychique habituelle ou, comme nous disons, d'hypomanie chronique.
Étrange archive de ce docteur Logre qui fait un diagnostic à distance dans le temps de maniaco-dépressif, plus ou moins, pour Willy.
Ce qui est vrai, c'est, et ça tous les témoins de l'époque le disent, hein, on voyait toujours dans le regard, les yeux bleus de Willy, passer une certaine tristesse. Il ne faut pas se laisser attrapé à voir par le personnage que Willy lui-même a créé. À la fois toutes ces images qu'il a données de lui, hein, vous savez qu'il avait le goût de cette mise en scène, y compris dans la caricature la plus cruelle à son endroit. Il faut aussi ne pas se fier à ses textes drôlatiques avec ses emplois de calembours à n'en plus finir. Je pense que cet emploi des calembours est une façon pour lui de cacher une profonde tristesse, une profonde mélancolie. C'est bien de cela dont il est question quand il rencontre Colette dans les années 1890. Il a perdu la femme qu'il aimait, Marie Servat, qu'il a profondément aimée d'amour. Et je crois qu'après, il n'a jamais retrouvé exactement cela. Et cette tristesse n'a cessé de l'accompagner. Et évidemment, elle a été aggravée par le fait qu'après avoir été le prince de Paris, il a été tout à fait oublié et enterré. Aujourd'hui, si on parle de Willy dans cette émission, c'est bien parce que Colette existe.
Quel conseil Colette aurait pu donner à une jeune fille qui lui aurait demandé justement des conseils alors qu'elle était encore mariée avec Willy, selon vous, Frédéric Magé?
Je me garderais bien de faire parler Colette. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle-même parle de la jeune femme qu'elle a été finalement. Ce qu'elle dit, c'est que la jeune femme ne résiste jamais véritablement à mettre sa main dans la patte de l'ogre ou de l'ours, si vous voulez, parce qu'il est tentant. Parfois, les jeunes femmes peuvent ne jamais s'en remettre. Colette s'y est forgée un caractère qui lui a permis d'affronter le demi-siècle qui s'ouvrait devant elle et dont elle est devenue la reine.
La série des Claudines comportait déjà une aura sulfureuse faite d'une légère et scandaleuse sensualité. Le mari de Colette était déjà considéré comme un libertin invétéré, et voilà qu'il allait pousser encore plus loin les limites, avec pour résultat de se détruire lui-même, comme nous allons le voir dans l'épisode qui suit.